Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Jésus est sur le point d'être trahi par Judas et d'être livré. Et on va le frapper, on va lui tirer la barbe, on va le dénuder. Donc il va vivre toutes les émotions qui sont les émotions liées au rejet, à la honte, à l'abandon. Et finalement, on va le crucifier, il va mourir. Alors, lorsque Jésus se retrouve à prier, je veux que vous ayez à l'esprit que Jésus est conscient que son destin, c'est d'aller à la croix. Mais il est triste, et le mot angoisse, c'est il a peur. Pour parler à la manière de jeune, il fia.
Exactement.
Okay, donc vraiment, vraiment, il a peur. Et alors qu'il a peur, Jésus est frustré par un destin que son père veut qu'il vive, mais qu'il ne veut pas vivre. Mm-hmm. Et c'est important parce que je veux que vous sachiez que faire la volonté de Dieu est difficile. Et la première chose qui va vous frustrer quand vous développez une relation avec Dieu, c'est de vous rendre compte que ses projets ne sont pas les vôtres. Que vos plans ne sont pas les siens. Tu as des aspirations, et puis Dieu te dit, je t'appelle au ministère. Tu veux servir Dieu, mais Dieu te dit, poursuis d'abord l'école. Tu as des aspirations, tu veux voyager et sortir du pays parce que tu veux poursuivre tes études, et la porte des frontières se ferme. Les parents n'ont pas les moyens.
Seigneur Jésus.
Tu es à l'église, tu viens dans l'église, et puis tu vois l'église et tu te dis, ah super. Tu vois des jeunes chanter, servir, d'autres même prêcher. Tu dis, je veux ça. Et tu te rapproches des gens qui t'inspirent et tu découvres qu'en fait, ils sont pires que toi. Okay. Ils ont des défauts que tu n'as pas. Ils pêchent comme tu ne pêches pas. Tu te rends compte que, ok, au final, c'est vraiment pas ce que je pensais, c'est vraiment pas ce que je voyais. Frustré. La frustration conduit à la déception, la désillusion. Tu mettais les gens là. Ils posent des actions et tu te rends compte que peut-être tu les as mis trop, ils sont peut-être là. Bon, là, pour les autres, c'est peut-être plus simple, mais tu te mettais là. Et puis toi-même, tu te rends compte que tu n'es pas là. Par une faute, par une action que tu commets, par une erreur. Bref, Jésus ressent les émotions que nous tous on ressent, frustré par un destin qu'il... Le texte dit, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Voilà ma volonté. Mm-hmm. Vraiment, pardon.
Yako,
je ne veux pas boire cette coupe. Je ne veux pas subir ce que je vais subir. Mais il dit, cependant, pas ma volonté, mais la tienne. Ça veut dire que Jésus avait sa volonté, le Père avait la sienne. C'est important parce que si Jésus, fils de Dieu, Dieu fait chair, arrive sur la terre des hommes et se retrouve à avoir sa volonté et le Père la sienne, c'est qu'il n'est pas différent de vous et de moi. Et ça permet qu'on s'identifie à lui et qu'on n'ait pas le sentiment que pour Jésus, c'était facile. Parce que Jésus avait les meilleurs parents, Jésus était conscient depuis toujours qu'il était le fils de Dieu. Non, c'était difficile. Donc Jésus est frustré par son père, par Dieu, et Jésus se rapproche de celui qui le frustre. On m'a demandé, quand tu es frustré par Dieu, vers qui tu vas? La réponse, c'est Dieu.
My God.
Si okay. Tu es frustré par Dieu, ne va pas d'abord vers les gens.
Ok.
Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, votre première réaction, ce ne sera pas d'aller prier. Ce sera d'aller voir un aîné, quelqu'un qui est dans la foi avant vous, un pasteur, un évêque, un leader. Et c'est ce que Jésus fait dans une certaine mesure, mais il ne le fait pas parce qu'il ne le connaît pas. Jésus demande à ses amis qui ont marché 3 ans et demi avec lui. Les gars, ça va pas. Je suis triste, j'ai peur. Sachant que celui qui dit j'ai peur, celui qui dit qu'il est triste, n'est pas triste habituellement. N'a pas peur habituellement. Habituellement, c'est lui qui soutient les autres. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui multiplie le pain. C'est lui qui sépare les disputes. Et le jour où lui se trouve dans le besoin, la première et peut-être la seule et unique fois où il a besoin d'aide, ses poteaux dorment.
Incroyable.
Ses amis l'abandonnent. Pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont fatigués.
Ok.
Et donc, quand vous êtes frustré et que vous demandez de l'aide, il faut que vous sachiez que personne ne va porter votre problème comme vous-même. Quelle que soit la personne qui vous écoute, à laquelle vous vous adressez lorsque vous écrivez sur WhatsApp, que vous appelez, même si la personne vous écoute aujourd'hui pendant des heures, pleurer, vous plaindre de la situation, un jour viendra où elle ne décrochera pas. Elle ne sera pas disponible, pas parce qu'elle vous snob, mais parce qu'elle-même a ses problèmes.
Yes.
Est-ce que vous me suivez ?
Oui, évêque.
Donc, Jésus est frustré et demande à ses amis de prier avec lui. Il se rapproche, donc il les laisse, il va prier, il parle à Dieu. Et le silence de Dieu, parce que Dieu ne répond pas, le silence de Dieu le ramène chez ses amis. Quand il repart vers eux, ils dorment. Jésus leur dit, les gars, même une heure. Il les laisse, donc ils n'ont pas résolu son problème, ils n'ont pas répondu à ses besoins. Il repart vers son père et il prie à nouveau. Et à nouveau, Dieu est silencieux. Donc suivez parce que c'est important. D'un côté, elle va jouer le rôle des amis. Elle me déçoit parce qu'elle dort.
Comment ça?
De ce côté, il y a Dieu vers qui je vais et qui est silencieux. L'image, c'est que je me retrouve sous pression parce que l'abandon de mes amis et le silence de Dieu augmentent ma frustration. Donc, je suis déjà frustré, mais Dieu va s'organiser pour que la frustration augmente. Qu'est-ce que tu dis, évêque ? Je dis, la sortie de la frustration, ce n'est pas de fuir la frustration, mais de l'affronter. D'y faire face. Malheureusement, la plupart d'entre nous, quand nous sommes frustrés, nous fuyons ce qui nous frustre. Vous êtes là ou pas?
On est là, évêque.
Et nous essayons de faire taire la frustration en faisant des choses qui détournent nos pensées de ce qui nous frustre. Si je suis frustré par Dieu, je ne viens plus à l'église. Je ne prie plus. Si je suis frustré par Dieu, je m'éloigne de lui. Je vais vers mes amis avec lesquels je groove. Je bois. Je fume, je me drogue, je groove. Et puis, jusqu'au moment où Dieu s'organise pour que, au milieu du groove, là où tu cherches une cachette, là où tu cherches un repos et un réconfort, là-bas, on te frustre. Et quand tu es frustré là-bas, tu vas chercher un autre groupe. Parfois, tu vas te cacher dans tes études, et puis, toi qui te dis, ok, moi, je suis brillant. En famille, on ne me respecte pas. À l'église, non, 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 je réussirai dans mes études. Quelque chose se passe qui fait que... D'accord. Qui fait que ce qui était ta sécurité te lâche. Peut-être ce n'est pas une note. Peut-être ce n'est pas un devoir. Peut-être c'est simplement le fait que tu te dises, là, je soutiens, je voyage. La porte se ferme. Tu es frustré davantage. Donc, pour répondre à la question, vers qui on va quand on est frustré? Quand tu es chrétien, tu vas vers Dieu. Évêque, mais c'est lui-même qui me frustre.
Exactement.
Avant que je te permette de poser la prochaine question, qui ici est assez honnête pour dire que la vie est frustrante? La vie. La vie. Là, je n'ai même pas parlé de l'église, je n'ai pas parlé de Dieu, la vie. Tu ne lèves pas la main, tu mens à l'église tu mens, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. À l'église, tu mens. Merci. Maintenant, si la vie est frustrante, qu'est-ce qui nous frustre dans la vie?
Tout.
Et c'est là où je veux en venir avant de permettre qu'elle me pose les autres questions et qu'on prenne vos questions. La plupart du temps, on est frustré, mais on n'arrive pas à identifier exactement ce qui nous frustre.
C'est vrai.
C'est pour ça qu'on ne sort pas de là. Vous ne pourrez pas sortir de la frustration si vous ne savez pas qu'est-ce qui vous dérange vraiment. Et je vais vous choquer. Ce qui vous dérange, ce n'est pas la vie. Vous avez dit, vous êtes frustré par la vie. Ce n'est pas la vie. Ce qui vous dérange, ce n'est pas Dieu. Ce qui vous dérange, ce n'est pas l'Église. Ce qui vous dérange, ce n'est pas les autres. Ce qui vous dérange vraiment, c'est le sentiment, à mon sens, c'est l'une des choses, c'est le sentiment de ne pas pouvoir vivre la vie que vous voulez vivre.
Mm-hmm. Vérité, évêque.
Ça veut dire ce qui te frustre vraiment, c'est que tu as des aspirations, tu as des attentes, et quel que soit le domaine, tu te sens limité, tu te sens restreint, tu te sens bloqué. C'est ce blocage-là, cette restriction, cette limitation qui produit la frustration.
Merci beaucoup, évêque. Oui, nous pouvons acclamer pour l'évêque. Évêque, quand même, alors que vous étiez en train de parler, j'ai envie de dire, et je pense que l'auditoire également peut penser la même chose, que même mon évêque, vous êtes évêque. Pour vous, c'est facile de parler, de se tourner vers Dieu. Parce qu'au fond, quel est l'évêque qui va venir dire qu'il faut aller ailleurs? Donc, à cœur ouvert, est-ce que vous pouvez nous partager, au-delà des frustrations que vous avez évoquées, l'une des frustrations où vous vous êtes dit, j'ai mal, mais je continue quand même de rester et d'aller vers Dieu?
Ok, moi il y en a plusieurs. Je vais essayer de prendre deux majoritairement. La première, c'est quand j'arrive à l'église. Bon, quand moi je me convertis, j'ai 14 ans. Précoce, whatever, je suis à l'église depuis que j'ai l'âge de 13 ans, à l'église de CRN en tout cas, CRN. À 14 ans, je donne ma vie à Christ. Et puis commence le début de ma frustration avec Dieu. Quand je ne cherchais pas Dieu, je n'étais pas frustré par Dieu. Je ne me sentais pas frustré par Dieu. Je vivais ma vie comme je voulais. C'était ma vie. J'ai donné ma vie à Christ parce que bon, on m'a dit que Dieu m'aime, qu'il a envoyé Jésus. Jésus est mort pour que moi je n'ai pas à mourir,
ouais.
Pour que mes péchés soient pardonnés.
Ouais.
J'accepte, je donne ma vie à Christ. Et puis pendant que je donne ma vie à Christ et que maintenant je suis à l'église et que je sers, on est à une réunion de jeunes. C'est là où ça commence. On est à une réunion de jeunes et puis le leader de jeunes, des jeunes à l'époque, le responsable des jeunes, prie pour les gens. Conduit par l'esprit, il appelle les gens, il prie. Il prie pour une personne, elle tombe. Il prie pour une personne, elle tombe. Il prie, elle tombe. Donc moi, je regarde les gens tomber et je vois, je me dis, ah, Dieu fait tomber les gens parce que je sais qu'il ne les pousse pas. Elles sont sous onction. Quand la personne tombe, bon, déjà, j'étais à l'église depuis un an, donc je savais, puisqu'il y avait des témoignages, quand la personne tombe, quand elle se relève, elle dit, ah, quand j'étais tombé, quand je suis tombé, un ange m'a pris. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Donc je me dis, ah, peut-être. Pour voir certaines choses, il faut que Dieu te fasse sous onction, pas tomber juste, tu tombes, mais que vraiment l'onction te saisisse, tu trembles.
Et puis tu trembles.
Le responsable vient et il prie pour moi. Et je sens qu'il est sincère, il prie pour moi et je ne ressens absolument rien. Ni frisson, ni fraîcheur, ni chaleur, ni courant. Je ne ressens rien. Et là, pour la première fois, je me sens rejeté par Dieu. J'ai le sentiment que Dieu a des préférés.
Mm-hmm.
Que Dieu est d'accord de toucher certains et de ne pas me toucher moi. Et donc, moi, je tombe à genoux. Et quand je me mets à genoux, le cœur déchiré, et je parle à Dieu. Et je dis, Seigneur, vraiment, sincèrement, ça paraît bizarre aujourd'hui, mais sincèrement, je dis à Dieu, Seigneur, pardon, fais-moi tomber.
Oh.
Non, pour de vrai. Fais-moi tomber parce que je veux vivre une expérience avec toi que tu donnes à d'autres. Et je me dis, si tu la donnes à d'autres, pourquoi tu ne la donnes pas à moi? Frustré, mais profondément. Je me lève, la réunion se termine. Et donc, les amis me disent, ah Michel, Dieu t'a touché, tu t'es mis à genoux. J'ai dit, Dieu, c'est pas Dieu qui m'a touché. T'as dit, Dieu ne m'a pas touché, c'est pour ça que je me suis mis à genoux. Et donc, des gens commencent à venir, des jeunes qui tombent dans l'église, des jeunes qui commence à venir, ah, Dieu m'a dit ceci sur toi. Le Saint-Esprit m'a montré ça. J'ai eu un songe. À l'époque, je n'ai même pas de songe. Et donc, à un moment, la prochaine personne qui vient me voir pour me dire, Dieu m'a parlé sur toi, je lui dis, mais cache. Je lui dis, va dire à Dieu.
authentique. Je lui ai dit, va dire à Dieu qu'il connaît mon adresse. Il a mon numéro de téléphone, il sait où je dors.
Ou bien.
Qu'il vienne me voir.
Mais attendez. Okay.
Parce que j'étais fatigué que des gens, que Dieu
bien
utilise
sûr.
Des intermédiaires
bien sûr.
Pour me parler. Et moi, j'avais des textes. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. J'ai dit à Dieu, si je suis ta brebis, comment est-ce que je pourrais te suivre si je n'entends pas ta voix? Et donc, dans la frustration, je dis, je m'enferme et je prie. Je m'enferme dans une chambre et je dis à Dieu, je ne sortirai pas tant que tu n'es pas descendu dans la chambre et tant que tu n'apparais pas. J'ai prié pendant des heures. Dieu n'est pas descendu.
Seigneur,
aucun ange n'est apparu. Je n'ai rien vécu. Mon père, parce que j'étais chez mon ami, mon père apprend que je me suis enfermé dans une chambre. Il m'appelle. Il appelle mon ami, il dit, dis à Michel de sortir de là-bas. Je sors donc de la chambre, frustré, parce que mon père ne comprend rien, mais frustré. Parce que tous mes efforts pour me rapprocher de Dieu, j'ai le sentiment que Dieu s'en fout, que Dieu ne les considère pas. Et donc, le début de ma marche avec Dieu, frustration sur frustration. Je commence avec un ami, on se convertit à la même période. Mon ami et moi, on est chrétiens. Je suis plus âgé que lui, je suis dans des classes, je suis en avance, en tout cas en termes d'études par rapport à lui. Mais on sert Dieu ensemble. Il est nommé responsable des jeunes, je suis adjoint, l'un des adjoints, je crois qu'on est deux ou trois. C'est vraiment mon meilleur ami à l'époque. Et puis, l'évêque général, lors du jeûne annuel de l'église, nous appelle. On est à une prière de midi. À l'époque, l'école s'arrêtait à midi. On reprenait à 15h pour finir à 17h. Donc, on est dans le jeûne et la prière. Il nous appelle deux jeunes. Je dois avoir 17 ans. Il doit avoir 15 ans. Si j'ai 18, il a 16. On nous introduit déjà à l'époque dans la cellule de direction. Donc, on est des anciens d'église. On est jeunes, mais on est anciens. Et il nous appelle pour prier pour les gens. Comme si j'appelais deux jeunes dans la foule. Et je dis, venez prier. Et on prie pour les gens, et pour la première fois quand lui et moi on prie, moi je touche quelqu'un, elle tombe. Je ne sais pas pourquoi elle tombe. Parce que moi-même, je ne suis jamais tombé. Donc, frustré parce que Dieu est capable de faire au travers de moi ce qu'il refuse de faire pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas pourquoi elle tombe. Je ne la pousse pas. Être en...
Évêque, c'est pas simple, c'est pas facile.
Mon ami, mon meilleur ami à l'époque, on dirige la réunion de prière du vendredi ensemble parce qu'on nous crée des opportunités. Et puis un jour, c'est lui qui prêche le mercredi. L'évêque général, pour ceux qui n'étaient pas au culte, a parlé de l'envie et la jalousie. Donc il prie, il prêche fort. L'onction tombe. Il a 17-18 ans. L'onction tombe dans la salle. Les adultes sont sous onction. Moi, je suis là, je me dis, c'est mon ami. Si Dieu fait ça avec mon ami, c'est qu'il va faire ça avec moi. Parce qu'on est tout le temps ensemble. On dort ensemble, on jeûne ensemble, on prie ensemble. Et puis, mon jour arrive. Le mois d'avance, le mercredi au culte des jeunes, mon ami a prêché. La salle est pleine, c'est une réunion de jeunes. Il prêche, l'onction tombe, les gens se convertissent, les démons sortent des corps, les gens crient. Mon jour arrive, la salle est pleine. Je suis frais. Costume. À l'époque, il y avait les Motorola à clapet.
Motorola
voilà.
À clapet.
Donc j'ai le, voilà. J'ai le Motorola de mon père sur le côté authentique.
Tout frais.
Coiffé, frais. J'ai le texte et je me tiens devant les gens. L'atmosphère est forte, il y a la danse, il y a les trucs, l'adoration. Vraiment, jusqu'à ce que je prenne le micro, on a le sentiment que Dieu est là.
Oh, comment ça?
Je prends le micro. Comprenez, comprenez. J'ai sauté plusieurs choses, mais comprenez que moi, même pour l'appel, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez, je suis évêque. Il y a des gens qui sont bénis par mon ministère, des gens dans les nations qui m'invitent à prêcher. Dieu ne m'a jamais appelé au ministère. Écoutez-moi bien. Vous avez des gens sur qui on prophétise. Je vais lui dire, Dieu t'appelle. Ainsi parle l'Éternel, Dieu t'a choisi. Moi, à chaque fois qu'un prophète venait dans l'église, et mon meilleur ami dont je vous parle, quand on arrive sur lui, tous les serviteurs de Dieu qui venaient dans l'église à l'époque, personne ne le loupait. Tous les serviteurs de Dieu prophétisaient, tu es évangéliste, tu vas faire des miracles, Dieu va t'utiliser. Si j'étais dans une queue et que l'homme de Dieu dit, va prier pour tout le monde, il prie, la personne avant moi, tu serviras Dieu, tu seras. Quand il arrive à moi,
tu as un bon cœur.
Dieu te bénisse. Authentique. On me passe la prochaine personne, ainsi parle l'Éternel. Je dis à Dieu, Seigneur, même si tu ne m'as pas appelé, pardon, appelle-moi. Authentique. Pardon, appelle-moi à te servir. Appelle-moi au ministère. Je suis tellement sérieux, il n'y a aucune voix qui n'apparaît. Personne ne prophétise sur moi. Aucun ange ne vient me voir. Je n'ai pas de songe dans lequel je me vois prêcher devant des foules. La seule chose qui me reste et qui finalement est la chose dans laquelle je trouve mon appel, c'est la Bible. Je prends la Bible. Je suis sur une terrasse en 98. On est en août. Je prends la Bible. Je viens de prier pour dire, Seigneur, appelle-moi. Aucune voix. J'ouvre la Bible. Quand j'ouvre la Bible, je tombe sur un texte en Jérémie où la Bible dit, et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je dis, ah, je n'aime pas le pastorat. Je ferme la Bible parce que les pasteurs souffrent. Les brebis ne les écoutent pas. J'ouvre la Bible à nouveau. Je suis sérieux. Je suis en train d'aller quelque part et on va prendre vos questions. Après ça, je tombe sur un autre texte. Le texte dit et parle des prophètes. Je ferme la Bible. Je dis, je suis appelé.
C'est tout.
C'est comme ça que moi, je reçois l'appel. Mon appel que vous voyez aujourd'hui, oh non, l'évêque, ah, tu as l'onction, ah, l'évêque a la révélation.
C'est vrai. Hein?
Mon appel, Dieu ne m'a même pas bippé. C'est-à-dire, Dieu n'a pas pris son téléphone et puis il a... Non, c'est moi qui, à cause de la frustration, me suis rapproché de lui et ai dit, appelle-moi. Comme tu ne veux pas m'appeler par vision, par révélation, par les anges, par les prophètes, la seule chose où je sais que tu te trouves forcément et que là tu as déjà parlé, c'est la Bible. Je dis donc, dans la Bible, même si toi tu ne veux pas me parler, la Bible va me parler. C'est là où je prends mon appel. Donc je prêche cet après-midi là avec l'appel que moi-même je suis allé chercher. Important. Avec l'appel que moi-même je suis allé chercher. Je vous dis ça pour comprendre le niveau de frustration qui était le mien. Et là, je me tiens devant une salle pleine comme celle-ci. Mais on est 150 jeunes, là on est plus. Je me tiens debout, j'ouvre la Bible, je lis et je prêche. Écoutez-moi, je prêche. À un moment, moi-même le prédicateur, je sens que depuis que j'ai parlé, Dieu n'est pas là. Ça veut dire que tout le monde est là. L'évêque Nadia, qui est pasteur à l'époque, est là. C'est le pasteur de l'église. Tout le monde est là. Je parle. Et je sens dans mon propre corps que là.
C'est bad.
C'est pas que je parle mal. C'est pas que ce que je dis n'a pas de sens. C'est juste que Dieu ne met pas un cachet. Souvenez-vous que la personne à qui Dieu fait ça est déjà frustrée. Donc ce jour-là, c'est tellement bad, mais tellement bad.
Seigneur Jésus.
Que quand je fais l'appel à la repentance, personne ne vient.
Oh.
Il y a peut-être 50-60% de non-chrétiens dans la salle. Et puis il y a deux jeunes filles qui sont déjà chrétiennes, qui sont déjà au service dans l'église et qui m'aimaient bien. Qui, par pitié, voyant que vraiment...
Personne ne venait.
Il est en train de boire la tasse. Il faut quand même qu'on sauve un peu son honneur. Je fais l'appel, elles viennent. Quand elles viennent et qu'elles se mettent devant, ça m'énerve encore plus. Parce que je sais qu'elles sont chrétiennes. Et je sais que là, c'est juste l'affection, l'amour. Mais c'était mal. Quand je finis la réunion, personne n'ose venir me parler. Personne.
Il ne savait pas quoi.
Mon meilleur ami ne me parle pas. Il ne me dit rien. On reparle ensemble le lendemain. Il ne me parle même pas de la réunion d'hier. Suivez-moi. Finalement, 2 mois plus tard, quand on me rappelle parce qu'on me reprogramme, il me dit, parce que c'est lui qui me programme, il me dit, Michel, c'est toi qui vas prêcher, mais pardon, ne fais pas ce que tu avais fait. Première frustration, c'est celle-là, ou les frustrations que j'ai vécues. Mais l'une des frustrations les plus grandes a été le décès de mon père. Je suis en train d'étudier pour devenir pasteur. Je suis parti du Gabon pour faire des études théologiques, pas parce que je voulais, parce que l'évêque général à l'époque m'explique qu'un serviteur de Dieu doit être équilibré, il doit avoir l'esprit et la lettre. La lettre et l'esprit. La connaissance et l'onction. Et donc, sous sa direction, je décide d'aller. Je ne voulais pas partir. Moi, je n'ai jamais rêvé d'aller aux États-Unis. Ce n'était pas dans mes aspirations. J'y suis allé à cause de Dieu, à cause de l'appel. Donc, je vais aux États-Unis et je finis la première partie de mes études, Christ pour les nations. Je dois maintenant aller à Oral Roberts, donc poursuivre mes études à l'université. Je reviens les vacances en 2006. Ma famille est... Allez, mon père est ici à Libreville, le reste de ma famille est à Port-Gentil. Et Dieu m'a parlé alors que j'étais à la fin de mes études théologiques. Pas d'argent. Mes parents étaient dans une situation, une crise financière. Et alors que j'étais étudiant à l'école biblique, Dieu me dit, tu iras à Oral Roberts. Mes parents n'ont pas d'argent. À ce moment, pour ça. Non, ils sont vraiment, c'est difficile à ce moment. Et bon, je ne le savais pas. C'est après que je le découvre quand j'arrive. Et donc, quand je viens en 2006, j'ai déjà commencé à Oral Roberts, mais j'arrive à la période des grandes vacances chez moi. Et donc, mon père et moi, on se parle. Et je dis à mon père, normalement, je dois repartir. Et il m'explique la situation financière et il me dit, Michel, ce n'est pas possible. Là, si tu pars, on ne sait pas comment tu vas poursuivre tes études. On n'a pas les moyens. Et donc, il me dit, le mieux, c'est que tu restes. Et puis, on voit après. Mais sauf que moi, j'ai Dieu qui m'a parlé. À l'époque, maintenant, je l'entends, je suis conscient. OK. Et donc, je n'ai que l'équivalent à l'époque de 25 000 francs sur moi. Mon père me dit, si tu pars, tu fais comment? Je dis, je préfère partir. Devant, me rendre compte que c'est pas bon, je reviens. Que de rester ici toute ma vie et de me demander qu'est-ce qui se serait passé si j'étais parti.
Yes.
Je ne veux pas vivre avec des regrets. Et donc, c'est important ce que je vous dis. Au moment où je pars, je ne sais pas ce qui m'attend devant, je ne sais pas comment je vais payer mes études. Mais j'ai la parole de Dieu. Maintenant, comprenez que je m'appuie sur Dieu quand je pars. Je ne savais pas que quand je partais là, c'était la dernière fois que j'allais voir mon père vivant. Je pars en fin de août 2006. En fait, on reprend en août. Je pars. Mon anniversaire est en décembre, le 20. Le 20 décembre, mes parents m'appellent pour me souhaiter joyeux anniversaire. Le 22 décembre, mon petit frère m'appelle pour me dire « Papa est mort ». Quand il m'appelle, je dis « C'est pas possible ». Écoute-moi. J'appelle tous mes amis. CFNI, Oral Roberts, avec lesquels j'ai étudié, qui sont mes proches et qui ont la foi en Dieu. Je leur dis, on vient de m'appeler, à l'époque je suis en famille, au Maryland, on vient de m'appeler et me dire que papa est mort. J'ai besoin que vous vous associez à moi. Je crois que quand je vais aller, je vais prier, il va ressusciter. Parce que c'est dans la Bible. Et j'ai lu de Genèse à Apocalypse tous les textes qui parlaient de la résurrection des morts. Il n'y avait aucun texte dans la Bible sur la résurrection que je ne connaissais pas. J'ai lu, je me suis associé avec mes frères, mes amis, mes collègues. On a prié. J'arrive au Gabon 4 jours après sa mort. Ça coïncide avec l'histoire de Lazare. Vous connaissez l'histoire de Lazare?
Yes.
Jésus a dit, cette maladie n'est pas la mort. Il a attendu 4 jours. Le 4e jour, il arrive, il sent déjà. Et puis on demande d'ouvrir le tombeau. Lazare sort. Je suis convaincu que j'ai la foi. Tout est possible à celui qui croit. La foi déplace les montagnes. Dès que j'arrive à Libreville, on m'emmène à la maison familiale et je dis, Je veux voir personne. Je veux pas parler avec vous. Emmenez-moi à la morgue. Mon petit frère qui n'avait pas vu le corps de mon père à l'époque demande à m'accompagner. Donc je vais avec lui. Une de mes tantes, sœur de mon père, m'accompagne. Dès que j'arrive, on va à la morgue. On sort son corps. J'ai son corps devant moi. Je prends sa main. Je dis, papa, réveille-toi. Une fois. Papa, réveille-toi. Deux fois. Papa, réveille-toi. Trois fois. Mon petit frère est en train de pleurer. Ma tante nous a laissés, elle ne peut pas supporter, elle sort. Mon petit frère pleure, je le calme. J'ai les larmes qui commencent à monter dans mes yeux. Je tiens la main de mon père sans vie. Et là, je réalise qu'il ne va pas ressusciter. Il ne va pas se réveiller. Je suis frustré depuis ma conversion. Je suis frustré par l'appel. Je suis frustré par l'Église. Et là, à nouveau, je suis frustré par Dieu. Je raccourcis l'histoire. On l'enterre. C'est compliqué. Déchirure familiale. Je repars aux États-Unis. Avec mes deux parents vivants, c'était difficile de poursuivre mes études. Là, ma mère doit gérer maintenant toute seule. Et je suis en train d'étudier pour être pasteur. Ça veut dire que je ne suis pas en train d'étudier pour faire autre chose que le servir. Je t'ai donné ma jeunesse. J'ai obéi à l'instruction de quitter le Gabon pour aller étudier. Je suis reparti étudier à Oral Roberts alors que mon père me disait ne repars pas parce que tu m'avais donné une parole. Et là, tu viens de prendre mon père. Je suis en colère contre mon père parce qu'il est mort. Je suis en colère contre Dieu parce qu'il est injuste à mes yeux. Et je suis en colère contre moi-même parce que peut-être mon père n'est pas ressuscité parce que j'avais pas assez de foi. Je ne parle à personne. Je ne parle pas à ma mère. Je parle à personne. Je me renferme sur moi-même. Et là, pendant que je suis en train d'étudier, je continue à aller à l'école parce que ma mère paye et je suis responsable. Mais j'arrête d'aller à l'église. Pendant 6 mois,
wow.
Alors que j'étudie plus parce que je veux être pasteur. Je finis, dans ma tête, je vais finir mes études parce que ma mère a payé. Je ne prie plus, j'arrive plus à prier. Parce que comment tu parles à un Dieu qui n'écoute pas tes prières? Comment tu parles à un Dieu qui dit qu'il va faire quelque chose et quand tu es dans la situation, il ne fait pas? Comment tu parles à un Dieu qui a tué ton père? 6 mois, j'arrive plus à prier. Frustré. Mais je découvre dans ma frustration que si je m'éloigne de la lumière, c'est que je me rapproche des ténèbres. Ce qui me ramène à Dieu, ce n'est pas mon amour pour Dieu. Ce n'est pas ma foi en Dieu. La prochaine fois que je prie, 6 mois plus tard, je me mets à genoux dans une pièce. Ma prière va durer 3 minutes, 5 minutes max. C'est parce que je commence à redevenir païen.
Ok.
Je recommence à avoir des élans, des attitudes, des envies, des aspirations qui me rappelle qui j'étais avant ma conversion. Et moi, païen, même moi-même, je ne m'aime pas. C'est-à-dire que
yes.
Michel Ambourouet païen,
ça ne sonne même pas,
est un instrument efficace dans les mains du diable. Destructeur. Donc je me mets à genoux et voici comment je prie. Et je finis. Je dis à Dieu, écoute, je n'ai pas envie de te parler. Je n'ai pas envie de prier, mais je commence à redevenir païen. Fais quelque chose, sinon toi et moi, on va être perdants. Je me lève, je sors. Une semaine après, une envie qui n'était plus dans mon cœur, qui n'était plus dans dans mon être depuis 6 mois, réapparaît. Tout d'un coup, j'ai envie de prier. Quand j'ai ressenti cette envie, je l'ai attrapée, ma gamba. C'est-à-dire, j'ai bloqué l'envie.
Clé 14.
Parce que je me suis dit, là, c'est la porte de sortie. Si je la loupe, je suis foutu. Donc, j'ai recommencé à avoir envie de prier. J'ai attrapé. C'est-à-dire, dès que j'ai eu envie, j'ai couru quelque part. Sur le campus, j'ai prié. Ça n'a pas duré. Ça a duré peut-être 10 minutes. Et puis, la semaine, j'ai commencé à aller au culte, à repartir à l'église. Je vous raconte ça pourquoi? Parce qu'elle a dit que parfois vous nous regardez et vous avez le sentiment que la frustration, nous, on ne connaît pas.
Yes.
Que ce qu'on connaît quand on vous parle de « Ah oh non, va prier, va vers Dieu, Dieu te frustre, va vers Dieu », c'est qu'en réalité, on parle à partir d'une vie où Dieu a toujours fait comme on voulait, Dieu nous exauce à chaque fois qu'on prie, et ce n'est pas vrai.
Merci beaucoup, évêque, à cœur ouvert.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.